con toda palabra, con toda sonrisa.
Bonjour et bienvenue à ce nouveau À l'air libre avec aujourd'hui Emmanuel Loi. Emmanuel Loi est né dans les Vosges en 1950 et vit actuellement à Marseille. Ancien braqueur, il fait de la prison où il a découvert la littérature et la philosophie. Il en sort en 1980 pour entamer ensuite une carrière d'infirmier en hôpital psy. Aujourd'hui, il consacre son temps à l'écriture, touchant à tous les genres en tant qu'essayiste, romancier, avec des romans qui vont du polar au roman historique, nouvelliste, auteur de textes de théâtre et parfois de poésie. Il est également animateur d'ateliers d'écriture. Son premier livre, L'écriture de Peu, paraît chez Christian Bourgois en 1979. Il a publié à ce jour, chez de nombreux éditeurs, près d'une vingtaine d'ouvrages, dont certains sont inspirés par son expérience carcérale. On peut citer parmi tous ses livres Voleur, chez Barreau en 1986, De Fer et Marseille, également chez Barreau en 1989, L'Argent et la Mort, chez Via Valeriano en 1993, Le Onzième Commandement au Fleuve Noir en 1999, La Vie Périmée aux éditions numéro 1 en 2000. Et pour les dernières parutions, Les Mains en l'air, chez Léo Cher en 2002, un roman qui relate la trajectoire qui a conduit un jeune braqueur solitaire à passer 6 années de sa vie en prison et qui est suivi d'un texte, Braquage mode d'emploi, un surprenant manuscrit trouvé à Fresnes, un véritable code des usages du métier qui circulait à cette époque dans les prisons. Ensuite, Peine capitale, chez Flammarion en 2003, un roman qui raconte le parcours terrible de Charles Buffet, l'avant-dernier condamné à mort en France. Le Téméraire, chez Panama en 2007, un roman historique consacré à Charles le Téméraire, le dernier duc de Bourgogne. L'essai Une dette, Deleuze, Duras, Debord, aux éditions du Seuil en 2007 également. Un petit ouvrage sur le deuxième album du groupe de rock méconnu Spooky Tooth, intitulé Spooky Tooth, aux éditions Le Mot et le Reste en 2008. Et le dernier qui fera l'ouverture de cette rencontre, La Valeur d'Usure, sous-titré Oppression et Aliénation Contemporaine, aux éditions Annabeth, dans la collection Pamphlet, sortie en septembre 2009. Je retrouve Emmanuel Loi dans le quartier des 5 avenues, à Marseille, au milieu de la tranquillité du parc Longchamp. Emmanuel, on est au parc Longchamp, tranquille, au soleil, en train de regarder les enfants jouer. Tu m'as emmené là parce que, il fallait qu'on trouve un petit endroit calme, mais sinon on était dans un lieu sympathique et un petit peu plus bruyant pour manger. Du côté du parc.
En bas, près des grilles.
Près des grilles. C'est un quartier que tu connais bien.
C'est pas un quartier que je connais bien, c'est le premier quartier que j'ai connu à Marseille. Ouais. Quand j'avais 19 ans, j'étais hébergé chez des amis qui habitent au 5 Avenue. Et donc j'ai découvert le temps où il y avait le zoo, des tigres et un gorille blanc. Donc il y avait un gorille blanc. Et je me rappelle que la galerie art que tenaient Martin Pisani et Frédéric Valabrègue, on entendait le rugissement des tigres. Et leur maison, cette ville, la villa R, je crois que c'est la villa R, c'est ça. Mmh. On entendait ces animaux, les fauves. Et je regrette la disparition des zoos dans les grandes villes, hein, que ce soit Anvers, les grandes. C'est très important dans les métropoles que la présence animale, ce que nous sommes avant toute chose, ait disparu des villes. C'est, voilà. Donc c'est le lieu, le Longchamp, le zoo qui est dévasté maintenant, en proie à la convoitise immobilière.
Ouais.
Voilà.
Avec des grilles reconstituant une sorte de nature artistiquement reconstituée, si on peut dire. Tu connais bien Marseille, mais tu es né dans les Vosges.
Oui.
Tu n'es pas marseillais. Pourtant, tu es une figure marseillaise. Enfin, quand on évoque Marseille et certains de ses écrivains, tu es là, tu es dans le lot, je dirais.
Je suis là depuis 82, depuis janvier 82, puis ma sortie de prison. Je suis sorti de prison en mai 81 pour des vols qualifiés à main armée, c'est-à-dire des braquages. Il me cherche encore. La preuve, encore. Il me cherche encore.
On entend les hélicoptères.
En direct d'Auxerre.
On a trouvé l'endroit calme, mais on n'avait pas pensé à ce qui se passait en l'air.
Non, mais c'est bien.
Voilà, il passe. Il ne t'a pas trouvé.
Donc, ça fait... oui, depuis 82, je suis là. C'est une ville très centripète, Marseille. C'était encore plus, qui peut être très funeste si quelqu'un ne sait pas s'excentrer de cette ville. Parce que, paradoxalement, la douceur de vivre, le farniente, c'est-à-dire fare niente, ne rien faire, est un assoupissement de l'âme. Beaucoup d'artistes l'ayant compris, sont obligés d'abdiquer, de partir, de quitter la ville, hein, de façon parfois volontaire, parfois fulgurante. Mais rester ici, y faire souche, est extrêmement dangereux. C'est une ville très centripète. C'est un port, on ne devrait pas... Un port, c'est une transhumance. Les gens, ils viennent, ils s'installent, ils font souche, font des minots, en avant créent des dynasties, mais c'est une république, c'est un comptoir. C'est comme Pondichéry, Marseille. C'est un comptoir des richesses et des humeurs. Et y rester, moi, je peux... À qui le dis-je ? J'y suis encore. Alors, en ce moment où je en parle, je suis encore dans cette ville. Ailleurs, je m'ennuie. Alors, donc, c'est quand même un petit problème. Mais c'est un comptoir. C'est non seulement dans les mœurs politiques, entre autres, une république bananière, mais c'est surtout une notion de comptoir est importante. C'est un comptoir. Voilà. On deal, on vend.
On bouge beaucoup. Toi aussi, tu bouges beaucoup.
Je bouge beaucoup.
Tu pars, tu reviens.
Maintenant, en ce moment, en ce moment, oui. J'ai compris que cette ville était une entrave. Et pas n'est pas forcément libératrice. C'est pas parce que c'est très bien de manger des oursins, hein, c'est bien d'avoir le soleil tout le temps, mais ça fait pas une vie en soi. Ça, c'est pas du tout. Voilà. Le cadre est émollient quand même à Marseille, souvent.
Ouais.
Voilà, c'est mon opinion.
Est-ce que ça te donne un cadre gênant ou au contraire favorable pour écrire?
Oui. Exactement. Vu qu'il n'y a pas de convoitise artistique, les expos sont merdiques, les 12 théâtres accablants, donc tout est comme ça. La musique de chambre, moi, je suis fou de musique de chambre, j'ai entendu en 25 ans deux concerts de musique de chambre à Marseille. On n'est pas à Dortmund ni à Stuttgart ici. Donc voilà, donc cette pauvreté est saine pour un créateur s'il sait l'utiliser. Oui, oui, c'est exact.
Alors, parlons-en de ça. Il y a beaucoup de livres d'Emmanuel Loi. Quand on prend... le dernier, je ne sais pas, il doit y avoir une vingtaine d'ouvrages parus.
22, 23.
Très, très différents, hein, parce qu'il y a des romans, il y a de la poésie, il y a des essais, il y a des choses qui sont entre tout ça, peut-être même. On va en parler. Et je me demandais justement, on va peut-être s'attarder un petit peu sur les derniers, mais en regardant tout ça, je me suis demandé quel lien tu pouvais faire, toi, dans cette production. Quand je dis production, c'est pas quelque chose d'exagéré, hein, c'est juste ton rythme, mais de choses tellement tellement diverses, que je me dis, toi, tu dois bien y faire ton chemin, y avoir ton fil conducteur.
Oui, mon miel même. J'ai fait mon miel.
Faire ton miel de...
Ah, tout ça. Ouais. Je crois à l'éclectisme, c'est-à-dire de ne pas se spécialiser, ne pas se répéter, ne pas... Enfin, l'autostylisation qui tue la plupart des auteurs ou des artistes, c'est refaire ce qu'ils connaissent. Donc ça, parce qu'en général, une marque de fabrique qui assure le succès, hein, de se répéter. Oui. Donc, me dérogeant à cette règle, c'est évident que je suis connu, mais mal connu, méconnu, parce que je suis connu pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que ces difficultés à se répéter, à faire du genre, à être assimilé tout de suite, telle couverture, tel nom, telle maison d'édition, c'est ça qu'on va lire, un essai ou un polar ou tel. Là, non, je déroge à ça. Je suis pas le seul, hein, heureusement, mais c'est plus difficile pour être accueilli. Beaucoup plus difficile.
Pour creuser son sillon.
Creuser son sillon.
Oui, parce que je l'ai pas dit, mais presque à chaque livre correspond un nouvel éditeur.
J'ai fait 10-11 maisons.
Il y a quelques fidèles, hein. Oui. Il y a Léo Cher, il y a le Seuil où tu as déjà publié, tu vas encore publier. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de maisons d'édition.
Oui, mais j'aime ça. D'abord parce que j'ai un fichu caractère et que je ne me laisse pas faire.
C'est les disputes.
Oui, ça se termine ou des impasses, ou des quiproquos, ou des abandons. C'est-à-dire, les éditeurs eux-mêmes sont pris par d'autres boîtes, où il y a d'autres capitaux, ou d'autres lignes éditeurs. Et il commence à chicaner. Dès que je vois qu'un éditeur se méprend sur mon compte, et sans ce qu'ils font en général, Je prends du large, je prends de large. Je m'assagis un peu avec le temps, donc je suis moins... Je m'en soucie un peu moins de ça.
Ouais. Mais se méprendre, c'est-à-dire qu'ils publient un livre qu'ils connaissent, et qu'ils ont lu, a priori, avant
bien.
De le publier.
Je suppose, oui.
Et malgré tout, ils se méprennent, c'est-à-dire qu'ils ils attendent de toi une reproduction de ce premier ouvrage, ou quoi?
Qu'est-ce qui se passe? Moi, je travaille depuis 4 ans sur Kierkegaard. Alors, c'est pour ça que je... Tu m'évoquais que tu venais de Saint-Nazaire où Copenhague était invité. J'aurais été informé, j'aurais été. Mais je travaille depuis 4 ans. Moi, je prends pas un penseur comme ça. Quelqu'un qui a une œuvre très mal traduite en français, terriblement mal traduite. Je lis beaucoup de philosophie. Je préfère lire la philosophie que la poésie. C'est des genres que je fais très peu l'un comme l'autre. Et c'est ma lecture. Je lis aussi des romans, mais le vrai goût, c'est la réflexion, la pensée, la philosophie.
Ouais. Donc,
Maine de Biran, Malebranche, Kierkegaard, Joseph de Maistre, c'est des gens où Mircea Eliphine, enfin des gens qui ne sont pas lus par le grand public, que je lis comme une 15-20 pages, auxquelles en lisant bien sûr toujours, en me nourrissant de Pascal, Montaigne. J'ai plus de bonheur à lire Pascal que lire Dan Brown. Hein. Je ne suis pas le seul sur Terre, mais c'est clair. C'est clair pour moi, donc je ne peux pas... La fiction est quand même une tâche. C'est quand même une tâche. Et c'est très rare qu'elle soit heureuse, qu'une fiction soit heureuse. Très, très rare. Très rare. Voilà. Donc la méprise, elle vient de que les éditeurs, un nombre d'éditeurs, jouent du nom en disant c'est atypique, on va publier ce mec, on ne sait pas où le classer, à quoi ça correspond... Mais son image est assez forte. On a sur l'image et le leurre de l'image, il lance ce bouquin. Et c'est complètement faux parce qu'ils n'ont pas capté la plupart du temps que la polysémie, ma polyvalence, elle est à la fois, elle est tragique aussi. Elle est tragique. C'est un empêchement. C'est pas. Je goûte à trop de choses. Quoi.
Ouais. Ouais. L'image, on va jouer sur l'image de ce mec. Tu dis c'est. C'est quoi? C'est ton image d'ancien braqueur? C'est ton image de voyou?
Voilà.
C'est ton image de grande gueule aujourd'hui encore, parfois?
De flibustier. Je suis un flibustier. D'abord, dit dans sa correspondance que Loi est un flibustier. Oui. J'étais plutôt ami avec lui. Oui, je suis un flibustier.
Oui.
Moi et Ricciotti, nous sommes des flibustiers, fiers de l'être.
La
flibuste, on est.
Il joue là-dessus, mais en essayant de t'enfermer dans ce rôle.
Oui, mais moi je m'en réclame, donc c'est différent. Oui. Je suis un pirate qui peut être corsaire. Le corsaire du roi, le pirate, voilà. Ça, c'est d'où aussi une irrespectabilité politique que je réclame. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis qui sont communistes, d'autres à l'extrême droite, d'autres qui ont été mercenaires, et je m'en fous complètement. J'ai bien été maoïste, mais une tare. Entre un mercenaire et un maoïste, c'est une tare. Moi, je ne fais pas comme Jospin, je reconnais mes tares. J'ai été la gauche prolétarienne. J'étais dans cet aveuglement à 20 ans de penser qu'un intellectuel devait aller à la campagne, toutes ces conneries qu'on nous a vendues. Donc, c'est aussi condamnable qu'un le péniste. C'est tout. Si quelqu'un ne peut pas l'entendre maintenant, mais tant pis pour lui. Mais c'est aussi fada, sectaire et craignos que ça. Hein, voilà. Donc, non, ce qui compte, c'est la valeur humaine. Moi, c'est pas le postulat de ce que raconte quelqu'un. C'est pas son discours immédiat.
Alors, c'est éclectisme.
Il
est là. Dans tout ton parcours, alors je sais pas, je vais pas citer les 22 livres, mais il y a des lettres de prison, évidemment, on va commencer par ça, même si ça commence pas par ça d'ailleurs. Il y a des essais sur Marseille, De Fer et Marseille, puisque tu parlais de la politique à Marseille. Il y a des livres sur l'argent, alors ça on y reviendra, parce qu'il y a beaucoup de choses où il est question directement ou pas de l'argent. Donc l'argent et la mort, qui était sorti chez Via Valeriano. Il y a 15 ans. Il y a une dette, Deleuze, Duras de Bord. Alors, c'est pas directement l'argent, mais il y a quand même le mot dette dans le titre, et j'aimerais bien qu'on en parle. Le tout dernier, la valeur d'usure chez Annabeth. Par exemple. Il y a un roman historique.
Oui.
Le Téméraire.
Oui. Charles Téméraire, dernier duc de Bourgogne.
Duc de Bourgogne.
Ouais.
Il y a de la poésie.
Il y a très peu de poésie.
Il y en a peu, mais. Tu en lis beaucoup.
J'en lis beaucoup, mais j'ai pas publié de recueil de poèmes. Ouais. Non, là, il n'y a pas de poésie publiée, là.
C'est paru. Il y a de la poésie parue dans des revues, dans des recueils.
C'est exact, mais pas en livre, pas en ouvrage. Ouais. Non. Je respecte trop le genre pour Je respecte trop les gens comme Marina Tsereva ou Paul Celan pour... pour moi, c'est le genre majeur, la poésie, que soyons clairs. Tout le reste, ce sont des phrases et ce ne sont que des phrases.
Voilà. Donc, des philosophes que tu dis,
oui,
des poètes.
Des poètes. Voilà. La romance peine. La romance, j'en lis et j'en écris, mais ça n'a rien à voir avec la poésie.
Ouais. Pourtant, tout à l'heure aussi, pendant notre repas, tu m'évoquais des écrivains américains que tu apprécies énormément, comme Carver.
J'aime les Russes et les Américains. J'aime les Russes et les Américains. J'aime beaucoup le Faulkner, Dostoïevski, et la suite qui vient maintenant. J'aime la littérature de l'espace. Celle qui chevauche, celle de l'espace, des grandes nations, celle-là. Mais j'ai du mal avec le roman français, le roman bourgeois français, qui s'écoute, qui se regarde écrire. Ça me tombe des mains. Hein. Je trouve ça inepte. Il est dominant. Il est absolument dominant. C'est une littérature de bienséance qui permet de rôter tranquille, qui est vendue. Prenons tout ce que publie le Mercure de France, par exemple. Voilà, une succursale de Gallimard, c'est en général affligeant. Voilà. Affligeant, c'est terrible. Parce que l'usage des mots, à ce moment-là, c'est des mots qui servent... ils servent la soupe, peut-être dans la porcelaine de Sèvres, mais c'est la serre, que c'est une gamelle cabossée de porcelaine de Sèvres, ils servent la soupe.
À l'air livre, Pascal Jourdana.
Emmanuel Loi.
Pas vrai, je suis un pro. c'est... Yves Rougeau de Radio Nova, il me dit oh, c'est chiant d'avoir des pros comme ça.
L'usage, ça me permet d'aller vers ce terme que tu utilises d'usure,
oui,
qui est l'usage abusif et répété, et où on racle les choses avec ce dernier ouvrage paru, hein, La valeur d'usure, Oppression et aliénation contemporaine.
C'est au féminin pluriel.
Alors justement, oppression et aliénation, c'est chaque fois au singulier.
Oui.
Mais tu aurais pu mettre ça au pluriel. Parce que, tu énumères des oppressions et des aliénations. Oui, et pour toi, c'est un ensemble.
C'est très important que ce soit au singulier. Il n'y a que de l'aliénation au singulier et l'oppression, elle est au singulier. La domination, elle est singulière. Elle est collective et s'adresse à chacun. Donc elle est singulière. Ce livre, qui est le dernier paru, il y a deux mois, évoque la jouissance que l'esclave que nous sommes, que l'esclave ou que la personne courbée éprouverait à continuer à être sous la coupe. Donc ce goût du joug qui est invétéré chez chacun en profondeur fait très mal. Très très mal, parce qu'il rapporte beaucoup. Donc, dans le livre, j'évoque les maladies de surface en contact avec le monde, c'est-à-dire dermatologues, rhumatologues, qui sont les secteurs de santé qu'ils développent le plus. Si les gens ont le malaise de la civilisation, pour parler comme Freud, s'incarne chez les gens par des douleurs, une plainte qui se constitue dans le corps. Et c'est un marché public d'envergure. Déjà dans l'argent à la mort, j'évoquais que les actionnaires principaux sont détenus par des groupes pharmaceutiques. Et ça, c'est éclairant. Ça parle. C'est même pas la peine de faire un commentaire.
Voilà. Et justement, ce genre de lien que tu fais là sur le corps, tu le pratiques à tout niveau dans ce livre. Tu fais, il y a des raccourcis parfois qui, alors là, sont pas du tout universitaires, on va dire. Hein, c'est une pensée qui suit son chemin. Il faut suivre cette pensée, mais en rassemblant un certain nombre d'éléments, un certain nombre de coïncidences, tu dénonces cette aliénation et cette servitude volontaire aussi.
Oui, tout à fait, exactement.
Et ça passe par la... Enfin, le nœud commun, c'est l'argent.
Nous ne sommes pas des victimes. Quand quelqu'un est élu avec 19 millions de voix, c'est absolument énorme. Quelle que soit la qualité du leurre, quelqu'un qui est élu, qui appartient à un système, donc un libéralisme de choc, on peut pas prétendre après on s'est trompé. C'est 19 millions, c'est quand même... nous sommes 65-67 millions de Français, donc un Français sur trois a voté sur une représentation de soi qui est ça, qui est... et moi, je ne supporte pas le discours qui accable. C'est pas le Léviathan. Le capital n'est pas forcément le capitalisme notre ennemi. L'ennemi, il est intégré chez chacun. C'est un combat beaucoup plus ambivalent, bien plus complexe. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes forcément consentants. En achetant, en consommant, nous avalisons cette machine qui est broyeuse d'identité, qui est fausse. Et en même temps, c'est la vie. Et en même temps, c'est la vie. Il n'est pas possible de s'en dédire. Comment être intelligent et comment résister par rapport à ça? Il y a des soupapes de sécurité que chacun trouve. Par des narcos propres, la musique, ses enfants, le plaisir, jouer. Plus la société va se socialiser, c'est redondant, mais plus elle se socialise, plus elle redevient barbare, plus les inégalités vont croître. Le discours égalitariste, qui est un discours nécessaire d'essayer de réduire la pression des inégalités, est un discours pieux. Parce que ce n'est pas possible, ça ne rapporte rien, l'égalitarisme. Ça, en part de marché, c'est pauvre. Par contre, de faire créer des abysses, des fonds prodigieux de richesse et des puits vertigineux de détresse, à ça, par contre, c'est luxurieux. Mmh. Est-ce qu'on a besoin de choses luxurieuses? Ça, c'est une autre chose. Mais on le voit avec l'émergence, par exemple, en Russie ou en Chine, l'explosion de milliardaires. Maintenant, il y a 120 milliardaires chinois, une trentaine de milliardaires russes, des pays qui étaient soi-disant en socialisme d'État, il n'y a même pas 30 ans. Donc ça change complètement la donne de la façon de la notion de puissance, même. Mm-hmm. La notion de puissance.
Ce qui est remarquable dans cet essai, au sens Montaigne,
La Boétie, surtout son ami.
Tu mêles beaucoup de choses, tu essayes d'avancer et ça avance. C'est que tu t'exclus pas de cette réflexion. D'ailleurs, on l'entend, tu dis nous sommes asservis à ça, nous participons. Tu dis jamais les gens, c'est jamais les autres, c'est toi y compris.
Bien sûr,
tout à fait. C'est une lucidité, une prise de conscience qui doit être dure à vivre.
C'est dur à vivre, et ça rend souvent malheureux. Il faut faire très attention à soi, et j'ai eu des gros ennuis de santé, dans la mesure où quand on est dans l'exiguïté d'une parole un peu verticale, à pic comme ça, le gouffre vous appelle. Et c'est... moi, je ne suis pas nihiliste, ça me semble étonnant, absolument pas, même ni pessimiste. Je suis très, très sceptique et critique en diable, mais absolument pas pessimiste. J'aime le progrès, je crois que c'est... Je déteste cette notion de décroissance qui pue un idéalisme béat, qui est sot surtout. Il n'y a jamais assez de croissance. Là, je partage la position de Claude Allègre, et pourtant quelqu'un que je n'apprécie pas beaucoup. Je trouve ça arriéré. Là, je partage la position de Michel Serres et d'Allègre, deux personnes auxquelles je n'ai rien à faire. Mais décroissance, le terme est malheureux. De toute façon, décroître, ça ne peut pas être positif. C'est le français, ça, non? C'est un essai très Nietzsche. Après coup, un copain m'a dit ça. Oui, un côté Nietzsche. Il n'est pas cité une seule fois. Une fois, même pas une fois dans le livre.
Non, je crois pas. Il y a toute une liste de citations, de références très éclectiques.
Beaucoup travaillé sur les philosophes du droit, sur les juristes, parce que on est passé d'une société fiscaliste à journalistique et maintenant justicialiste. Alors justicialiste, c'est-à-dire que la justice, un juge a tout pouvoir. Enfin, ça va durer 5-7 ans. Hein, c'est en train de finir. Ce cycle est en train de finir aussi. Ils vont passer à autre chose. Où ça se termine en affaire de justice. Le droit à l'image, le moindre préjudice corporel, est-ce qu'on a le droit à ceci? Par exemple, la notion de traçabilité que je remets en cause, que complètement eugéniste. Il y a des tas de choses comme ça qui sont le recours au droit pour légitimer nos vies, pour donner, pour scander le libre arbitre. C'est quand même très très mystérieux, parce que ce droit canon... qu'on a hérité de Napoléon, qui date de Philippe Auguste exactement. Il faut rappeler que la France, avec le Portugal, le plus pays historiquement dans ses frontières, même s'il y a eu des litiges de l'Alsace par deux fois en un siècle, mais on est le deuxième pays le plus vieux au monde. Donc c'est un poids terrible pour la France, un legs, un pays profondément moisi dans toutes ses institutions. Mais il se rénove, il est moisi, mais la moisissure est très riche, c'est champignonnesque, c'est ça, la pénicilline vient de là. Et cette moisissure est saine. C'est un pays qui est perclus d'histoire. Donc il boite, il marche, il a des béquilles parce qu'il est historiquement très marqué. Mais heureusement qu'il y a l'immigration, c'est pour ça que ce débat sur l'identité nationale prouve l'arriération de nos gouvernants. Ils ont 50 ans de retard. D'être pétainiste n'est pas dommageable, mais c'est grave quand même historiquement. Et c'est pas une erreur politique, c'est une erreur de fond. L'identité, parler d'identité nationale maintenant en 2009 prouve l'aveuglement de nos édiles, de gens qui. C'est un aveuglement total. C'est une telle sottise, une telle incompréhension anthropologique du monde qu'ils n'ont pas compris que tout migrait. On ne peut pas être sur virtuel, on ne peut pas passer d'informations comme ça. Les frontières, les racines, les gènes changent, tout change. Non. Mais ça, non, c'est sûr qu'un. Que les pauvres, on ne va pas les citer, ça ne sert à rien, mais. Ce sont des pauvres hommes prisonniers de leur statut.
De leur représentation. Tu parlais tout à l'heure du droit à l'image. Ça me fait penser qu'il y a aussi beaucoup ça, cette question de la représentation
tout à fait.
De soi. Et
très important.
Dans ce livre dont tu es question.
Bien sûr. C'est un livre qui parle de l'architecture, de l'habillement, de l'esthétique, beaucoup, de l'obésité. Oui, c'est un livre quand même sociologique. Hein. C'est une critique sociale. Hein, mais qui se veut post-marxiste, qui se veut très gramscienne. Moi, j'aime beaucoup Antonio Gramsci. Il me le rend pas, malheureusement, mais je l'aime beaucoup. Il n'est pas assez étudié, parce qu'il est bien plus dialectique. Il n'y aurait pas eu Rossellini et Pasolini sans Gramsci, c'est une petite parenthèse. Donc, c'est un livre qui, quand même, met en cause des choses que l'on ne voit pas, voilà, qui sont, à laquelle on flirte, des mesures de contrôle qui sont parfois insidieuses. Par exemple, j'ai étudié le code rural, le code urbain, le code rural, qui légifère sur les haies, sur les ruisseaux. Et on apprend beaucoup de choses. C'est comment une société se délite.
On voit bien, là, il me semble qu'on l'entend, là, ta manière d'avancer, de faire avancer ta pensée en rebondissant sur des mots qui te font penser à autre chose. Donc c'est les mots qui servent de charnière, mais en même temps il y a une pensée derrière, je ne sais pas trop comment l'exprimer autrement.
C'est très joliment dit.
Et moi ça me fait penser à ce terme d'usure, j'ai fait un petit peu le lien tout à l'heure et tu l'as fait toi-même avec un de tes livres précédents, L'argent et la mort, sur cette question de l'argent que je trouve dans les titres avec l'usure, parce que c'est
un terme de
la
banquier.
Valeur d'usure, c'est un terme de banquier. Avant même, d'après, je l'ai appris avec toi, avant l'usage quotidien du mot usure, voilà, des objets qui s'usent, c'est d'abord en termes de banquier, lié donc à l'argent. Et puis il y a ce livre avec ce mot que tu utilises, où tu fais référence à trois de tes figures tutélaires de penseurs et de... Et d'écrivains qui sont Deleuze, Duras et Debord, livre que tu intitules Une dette.
Oui,
là aussi, ça, évidemment, il n'est pas question d'argent dans ce livre. Mais...
Non, sur Une dette, ce n'est pas mon choix, c'est le choix de l'éditeur. C'est pas moi, c'est pas
que tu acceptes.
Ah oui, moi je voulais un coup de dé, moi.
Ouais.
Voilà.
Mallarmé est pas loin.
Oui. C'est le premier de la Pléiade, c'est même le seul. À 20 ans, j'avais pas 20 ans, j'ai acheté le Pléiade de Mallarmé et de Hölderlin, et ça reste mes poètes préférés 30 ans après. Donc, moi, je me renie pas beaucoup là-dessus. J'ai pas beaucoup de Pléiades, je déteste la Pléiade, je déteste les notions d'ordre complète. Ça envoie l'éclectisme tout à l'heure. Je trouve. J'ai acheté un Faulkner, un des deux Pléiades à Faulkner, je l'ai vendu très vite, c'est insupportable. Les romans doivent être séparés. Là, c'est vraiment, tu refais, c'est un mausolée comme ça, c'est vraiment. Et moi, d'abord, j'aime pas le papier Bible, ça rappelle les micelles. On voit l'autre page de l'autre côté, je n'aime pas ça du tout. Hein. Donc, pour avoir Mallarmé, par contre, c'est très difficile d'avoir les œuvres, donc c'est pratique. Hölderlin, pareil. Donc, mais par contre, la joie d'avoir des couvertures différentes, des formats différents, des usures différentes des livres, un auteur ne se remplace pas, c'est comme une cuisine, c'est comme un banquet. La Pléiade, c'est pour les thésaurisateurs, pour ceux qui ont une vision mitée, comme ça, catégorie.
Les chercheurs, peut-être.
Les chercheurs, les financeurs.
Alors, Deleuze, Duras, Debord.
Dette, ce sont des gens. à laquelle j'ai eu une relation amicale. Ce n'étaient pas des proches. Je n'étais pas leur élève, hein, même un petit peu avec Deleuze, mais ça a vite évolué. J'étais l'élève de Dolto et de Roland Barthes, et j'en parle pas dans ce livre. Donc,
les dettes, d'ailleurs, t'en parles dans le tout dernier, de Barthes, avec de Barthes. Un petit coup d'esbrouf de ta part.
Oui, oui. J'étais assez proche de Dolto. C'est peut-être, donc je ne vais pas me vanter d'avoir fréquenté des coupures, des gens qu'on... Le problème n'est pas là du tout. C'est que dans une vie, vous rencontrez des gens qui sont, pour une personnalité, plus saillante que d'autres, et ils vous marquent. Ce que j'ai appris de ces gens-là, d'une façon très très différente, de Debord, la radicalité profonde et argumentée, c'est quelqu'un qui était une immense culture classique, hein, 16e, 17e, 18e siècle principalement, extrêmement fouillé. De Marguerite Duras, Marguerite Duras, d'une grande joie, d'une grande de rire de ses malheurs. Et Deleuze, c'était quelqu'un qui était extrêmement difficile à vivre, très peu drôle. Quand il rit, on a l'impression qu'il s'étouffait, qu'il ricanait. Et donc, m'a toujours quand même mésestimé. Je ne sais pas si c'est un sentiment juste de ma part. Je m'a reçu chez lui, il est venu comme témoin de la défense à mon procès. Donc, il se méfie. Ce n'est pas la mésestime de sa part, c'est un engagement. Puis il a parlé comme un quart d'heure en cour d'assises. Oui, mais c'est pas rien. Donc, puis une correspondance sur le cinéma, que sa veuve ne veut pas que je publie, parce qu'il me donne raison. Ces deux mauvais livres, son image mouvement, ils sont très mauvais sur le cinéma, parce que je le reproche, je préférais des livres, des écrits sur le cinéma que sur les films, et il me donne un quitus. Sans aucun humour de sa part. Oui, oui, donc c'est évident que c'est pas le moment de faire paraître ce genre de texte. Donc, c'est quelqu'un, quand même, qui n'était pas tellement drôle. Voilà. Mais j'ai appris de lui. Là, c'est-à-dire la puissance de travail. Voilà. C'est quelqu'un qui travaillait 10, 12 heures par jour, tous les jours. Insatiable. C'est impressionnant. Voilà. Donc, ce que je fais maintenant, je suis passé de 3h30, 4h, je ne suis pas encore aux 12h, mais j'en suis pas loin. Donc, on y gagne une sacrée paix. C'est très, très bien.
Apprendre des autres, c'est important, ça.
Très, très, très.
Tu parles de dette, mais on sent bien que le terme n'est pas négatif.
Pas du tout. C'est une filiation. C'est une filiation.
Une transmission.
C'est lié. Je ne fais pas beaucoup d'ateliers d'écriture. Depuis 15 ans, j'en fais à des éducateurs spécialisés, à l'école de formation d'éducateurs spécialisés pour des enfants autistes ou polyhandicapés, etc. Et j'y trouve beaucoup de choses. Ça me nourrit énormément parce que l'écriture change forcément. Ces exercices où il y a 15 personnes, 12 à 15 personnes, qui ont hommes et femmes, entre 20, 35, 40 ans, qui ont d'autres vies avant, parfois des gens avec enfants. La production de textes auquel je les pousse, convie, entraîne chez moi une remise en cause totale d'un savoir-faire sur l'écriture. Donc, demain, je pars faire dans la banlieue lyonnaise un atelier d'écriture à 8 gosses que je ne connais pas encore. Mais pour moi, c'est très important. Je suis comme un joaillier qui explique à d'autres, à des apprentis, comment sertir.
Oui.
Parce que la langue est un outil. La langue reste une force.
Et l'auteur n'est pas sur un piédestal.
Ah oui, pas du tout. Ça,
tu partages ta cuisine volontiers.
Tout à fait. De mieux en mieux, même. De mieux en mieux. Tout le monde a besoin de se nourrir de ça. Le fait d'être nanti du verbe, nanti des mots, de savoir écrire, de me protège assez peu. Hein. Mais si ça peut aider des gens qui sont plus mal que moi à aller mieux, c'est pas mal. Voilà, ouais. Donc, c'est ce que. Moi, j'essaie d'être moins malheureux chaque jour. J'aspire pas un bonheur catégorique, j'essaie d'être moins malheureux. Et donc, en étant humble comme ça, j'y arrive, en jouant la clarinette, en essayant de ne pas parler à tort à travers, en faisant attention à moi, et donc en faisant attention aux autres, du coup. Avant, je ne faisais pas tellement attention à moi, j'étais un peu butor, ça passe ou ça craque, à l'arrache, et non, maintenant, c'est plus à l'arrache. Je prends du poids.
Cette dette, c'est aussi une dette de lecteur. C'est une dette de lecteur qui découvre l'écriture, parce que c'est des gens que tu as que tu as lu et qui t'ont incité aussi, qui t'ont porté dans ta propre démarche d'écriture.
Bien sûr, Duras, j'ai connu à 20 ans, Deleuze aussi, et Debord, j'avais 40 ans. Je l'accompagnais en fin de vie. J'étais un des rares amis assez proches. Et j'ai pas pu empêcher la paranoïa, le désir de persécution, avec les litres d'alcool qu'il a ingurgité, n'ont pas arrangé la chose, ni son corps, ni sa santé mentale. Et il est devenu extrêmement paranoïaque. Ça tue, hein. Richard Bacquier était devenu paranoïaque avant de mourir, hein. On se chope pas un cancer. Moi, comme ça, le cancer est une maladie de l'âme. Si l'âme accepte de périr, ben, le corps peut pas faire barrage à ça.
Ouais.
C'est tout simple. C'est pour ça qu'on ne peut pas guérir le cancer. Les cancers inguérissables. L'âme est difficilement guérissable.
À l'air libre, Pascal Jourdana.
Emmanuel Loura.
On va continuer notre chemin éclectique en s'arrêtant un petit peu, en écoutant un morceau de Spooky Tous. Spooky Tous. Dans l'album que tu évoques longuement.
Le 2,
donc ça fait Spooky Tous. Tu as sorti un livre là-dessus aux éditions Le Mot et le Reste, dans la collection Solo. Et on va écouter un morceau. Si t'es d'accord.
Combattant.
Tu nous diras après.
Yes, man. J'écoute pas beaucoup en ce moment. J'ai beaucoup écouté au moment que j'écrivais. Non, en ce moment, j'écoute autre chose.
À l'air libre, Pascal Jourdana.
Emmanuel Loura.
Alors là, on a entendu I've Got Enough Urges. Ma prononciation est
pas mal. C'est pas mal pour un français, c'est pas mal.
Alors donc ce petit bouquin, c'est autre chose, tu dis.
Oui, c'est un groupe de rock anglais.
Rock pop ou rock.
Oui, rock pop. Rock pop, mais des années 70, des types du Midwest, des villes du milieu, hein, des villes industrielles, Blackburn, etc. Et dont deux, le bassiste féru Tristan Corbière. Alors Tristan Corbière est un poète qui partage avec Charles Cros et Jules Supervielle un drôle de statut. Qu'on ne lit pas. C'est dommage parce qu'ils sont assez frais. C'est à lire. Voilà. Mmh. Et surtout, Corbière a surtout une belle ironie. Et donc j'ai fouillé un peu, parce que quand même, on n'a pas beaucoup à dire ce type de poète. Hein. Et j'ai traduit les textes de chansons. Voilà. C'est un petit ouvrage, un petit opus. C'est bien de ce groupe me parle, j'ai aimé Spooky Tooth à 19 ans, à 59 ans, que l'âge que j'ai
c'est
maintenant.
C'est toujours là.
C'est toujours là. Voilà, j'aime beaucoup. Comme les Doors, j'aime toujours beaucoup Bob Marley. Que j'écoute des trucs inconnus de Bob Marley, j'ai l'intégrale de Bob Marley. Hendrix, tout ça, ça me parle beaucoup, les Doors, et Captain Beefheart, qui est une passion profonde. Donc, les goûts évoluent, mais je respecte mes amours. Je respecte.
Là aussi, c'est une sorte de dette.
Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Abusé de ce qu'on a été, bien sûr. Ouais, on mute pas tant que ça.
Ouais.
C'est Picasso qui dit qu'il faut, il faut vivre longtemps pour rester jeune. Donc.
Alors là aussi, dans ce livre, alors évidemment, tu parles de musique, de ce que tu aimes, de pourquoi tu aimes ce groupe, mais tu parles de poésie, tu l'as dit tout à l'heure. Tu évoques d'ailleurs la poésie anglaise aussi, avec ces thématiques de pendu. C'est assez étonnant aussi de trouver ça dans un ouvrage comme ça. Et puis aussi la question de la représentativité, finalement, de la représentation, ces groupes qui marchent, qui sont connus, alors que d'autres à côté sont connus aussi, mais ne sont pas représentatifs, sont peut-être pas suffisamment.
Oui, je vais faire une parenthèse là. Oui. C'est que la poésie anglaise possède, avec Coleridge, Keats et John Murray Hopkins, entre autres, et John Donne et William Blake, des choses absolument d'une immense tenue. Et les éditions bilingues existent en français. Et il n'y aurait pas eu l'émergence de la scène pop, l'explosion des Beatles et des Rolling Stones tout court, si ces poètes sont liés à la langue anglaise, qui est certainement la langue la plus musicale avec le russe au monde. Donc, il n'y a pas de mystère. C'est un genre musical lié à une culture. Ses ressources sont dans les phonèmes. Ça, c'est. Moi, je parle couramment l'anglais, j'ai cette chance, mais. J'aime beaucoup la poésie anglaise que je trouve Coleridge en particulier, ou même Dylan Thomas. Les Gallois, les Irlandais, j'aime beaucoup cette littérature que je trouve. Moi, elle me parle. Hein, et je pense qu'il n'y aurait pas eu aussi de grands poètes, il n'y aurait pas eu les Sorrow, il n'y aurait pas eu les Walt Whitman qui a créé après le début de la grande littérature américaine de Kerouac, London et maintenant Jim Harrison, s'il n'y a pas eu la poésie anglaise. Eux, ils se réfèrent un peu, c'est un mix, parce que la poésie française, Rimbaud en particulier, a énormément d'influence sur Sam Shepard, par exemple, acteur et poète, sur Jim Harrison et sur d'autres. Hein, Baudelaire aussi. Donc, peu de gens de 20-30 ans lisent la Coleridge ou Keats. C'est dommage pour eux parce que c'est quand même c'est passionnant et c'est autre chose que Victor Hugo. Quoi. C'est pas le même ton. Voilà.
Tu disais tout à l'heure que tu avais traduit certains textes pour ce livre. Ça t'a pas donné envie de traduire d'autres choses qu'on peut pas trouver en français que.
Non, j'ai pas le temps de ça. Je suis un traducteur beaucoup trop long. C'est minutieux. Je traduis de l'allemand, j'ai traduit Friedrich Schlegel, du naïf et du sublime. Moi, la traduction, j'ai essayé pour le coin international de faire des piges. Je mets 4 heures pour faire un feuillet. Je suis absolument pas rentable, ni pour la boîte, ni pour moi. Eux, ils mettent 1 heure, 40 minutes. Et moi, je mets 4 fois ce que met un traducteur souple, parce que je suis un traducteur littéraire, moi. Donc, je respecte tous les rites, toutes les euphonies dans la langue d'origine. Enfin, donc, c'est un travail titanesque. C'est pas uniquement le sens on s'en fout. on s'en fout, ils n'impriment pas le sens. Il faut que le sens et le signe s'allient pour donner souffle, pour donner du souffle. C'est ça l'écriture.
Alors, là, on s'est baladé un petit peu dans, dans les essais, dans ce petit livre musical. On parlait de fiction tout à l'heure, tu disais que tu avais plus de mal avec la fiction,
non.
Pour lire la fiction française.
Oui, oui, oui.
Aujourd'hui, t'en écris quand même.
J'en écris.
Le dernier, en même temps, c'est...
Le dernier, La valeur d'usure.
C'est La valeur d'usure, c'est un essai. Mais le dernier roman, c'est...
Un roman historique.
Voilà, mais c'est presque... aussi un, enfin
c'est très classique.
C'est une interprétation historique aussi, c'est une lecture historique.
J'ai réécrit 17 fois ce livre. C'est un livre écrit sur 20 ans, réécrit 17 fois. Là, j'ai eu un refus du CNL pour travailler sur François 1er. Mais comme je suis Vosgien d'origine, et Vosgien tête de chien, il m'en faut plus pour me désarçonner. Ils ont dit que je m'identifiais plus comme auteur d'essai. Donc ça, Pascal, ça répond un peu à votre question. Moi, j'aime les romans historiques. J'adore Walter Scott. J'adore Dumas, toujours. C'est des lectures de mon adolescence, l'un comme l'autre, de mes 15 ans. J'aime beaucoup Zoé Eldenbourg. J'aime beaucoup la grande école historique française, Braudel, Duby, qui était un voisin Aix-en-Provence. Bon, son chien venait accabler notre chien en chaleur il y a 30 ans. Donc, c'était un voisin assez irascible, le petit père. Toute cette école des annales, tout ça, j'adore l'histoire, je lis beaucoup Stefan Zweig, j'aime beaucoup les livres de vulgarisation historique aussi. C'est un genre qui demande beaucoup de documentation et un travail de limier, voilà, un travail de limier. Parce que c'est. Après, il faut vérifier les dates, il faut vérifier les événements. Je vais faire sur François 1er. Ils ont refusé parce que je leur demandais de faire à pied moi, j'avais des gens de Chambon-sur-Lignon, des sources de la Loire jusqu'à l'estuaire, jusqu'à Saint-Nazaire, de le faire à pied, de me payer des hôtels, deux mois de petites auberges, de location de voiture, de location de barge. Ils n'ont pas voulu, ils ont trouvé ça lunaire, fantastique. J'ai quand même écrit un livre. Eux, ils sont pas lunaires du tout, on s'en doutait, ouais, ça c'est sûr. Voilà. Donc, si je fais, il faudrait que j'autoproduise ça. C'est un livre, François 1er, des autres personnages. Je rappelle que Léonard de Vinci est mort dans les bras de François 1er, qui s'était profondément ami. Les personnages du livre seront Jacques Cartier, Guillaume Budet, Dubélé, et j'en passe. Voilà, donc, et il y aura c'est narré par quelqu'un qui est un cartographe, un jeune cartographe fauché. Voilà, mais moi je suis têtu.
Vaste projet.
Ouais. Oui, c'est un vaste projet, c'est 3 ou 4 ans d'écriture. Ça. Donc, pour le moment, je lis, hein, je vais sur les lieux, je lis, je m'occupe, je prends plein de photos. Quelqu'un qui fait construire un château pour en habiter aucun. C'est un très grand roi, François Ier. C'est un roi révolutionnaire. C'est un monarque très important. Il ne supportait pas qu'il y ait des gardes du corps, il voulait être accessible à son peuple. Et il n'y a pas de gardes du corps. Hein. Non, c'est. Ce serait bien de rénover un peu, de restaurer son image à sa juste mesure. Il a fait l'égalité, la parité, homme-femme. Il a imposé le français comme langue administrative. Villers-Cotterêts, 1552. Réforme absolument révolutionnaire. Il a accepté de voir l'importance du contour du territoire, d'assainir des estuaires, de créer des phares et balises. C'est un grand roi. Voilà, donc il faudrait célébrer ça. Quelqu'un qui flambe la fortune du royaume pour accueillir les richesses de la création. Je pense que ça ferait du bien aux gens. Ça serait un livre très contemporain.
Ouais.
Voilà,
ouais.
Donc, je vais m'y mettre. Là, je finis ce qui est en cours. Un gros livre sur Marseille pour 2013, pour Le Seuil, pour Fiction et Compagnie. Ça s'appellera Marseille. Mon Marseille à moi, 400 pages. Très singulier, vous allez voir. L'aine amour que cette garce, pour parler comme une garçon de fer, il appelait cette garce, tout le temps. C'est vrai qu'elle n'est pas que ça, c'est une sœur aussi. C'est une sœur. C'est une frangine, Marseille. Ouais. C'est pas une garce, c'est un peu facile. Mais cette ville, quand c'est une ville de passion, hein, tout Marseillais refait l'équipe de son choix, de l'OM, tout est comme ça. Il y a des villes de passion, c'est Naples, Marseille, puis certaines villes au Mexique. Voilà. Il n'y a pas 36 villes, il y en a d'autres hein, aussi par le monde. Mais elles suscitent, rester neutre, on ne peut pas être neutre ici. Et dans la même journée, on l'aime, on la déteste, parfois dans la même heure. ça, faut arriver, je vais essayer d'arriver à l'écrire. Comment, c'est quand même une, extrêmement spécifique. Voilà.
Ah, on a commencé l'entretien avec Marseille, on termine avec Marseille. Mais c'est quand même en 2013. Ça, entre temps, il y a autre chose.
Oui, non, bien sûr.
Un nouveau livre, un livre qui sort, le jeu et compagnie.
Jeu de loi, 63 cas, 63 chapitres. Donc, c'est un livre sur les avatars, le quiproquo. Donc, c'est un livre sur Kierkegaard. Hein, il est beaucoup cité, il intervient beaucoup. C'est même les seules citations qu'il y a à peu près. Les maladies, la maladie, comment se rendre malade. Le japonais, j'apprends le japonais, j'ai un peu, où j'ai un mal fou. L'apprentissage d'une langue autre à l'âge que j'ai. Et les concours pour directeur d'école d'art, les 14 fois que j'ai présenté, je raconte par le menu 4-5 échecs à l'oral. C'est assez drôle. C'est un trait de funambule. C'est un ouvrage qui doux amer, qui s'appelle Le jeu de loi, qui va paraître l'année prochaine en 2010.
Voilà, pour un amateur d'échecs, c'est un autre jeu.
Un autre jeu.
Merci beaucoup, Emmanuel.
Merci.
Bonne journée.
Bonne journée.
Et puis, à bientôt.
Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada.
Voilà, c'est la fin de cette rencontre avec Emmanuel Loire, rencontre qui s'est déroulée au Parc Longchamp à Marseille. Vous pouvez retrouver les titres cités par Emmanuel Loire, les titres de ses livres précédents sur le site de Radio Grenouille, www.grenouille888.org. Et cette émission, vous pouvez également la retrouver d'ici quelques jours en podcast. Vous pouvez également retrouver les émissions précédentes, je ne le rappelle pas systématiquement, mais bien sûr vous pouvez retrouver les émissions précédentes. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous comme d'habitude le premier mercredi de chaque mois, à savoir maintenant au mois de janvier 2010. À bientôt.
Con miedo y con calma, un ruego en la voz.